et qu'il est bon de retrouver les murs du théâtre La Passerelle après des mois d'abstinence. Mon Dieu, quel dépaysement total, nous qui sommes fossilisés à la radio, fréquence Mistral, et puis finalement on a sorti un peu les vestiges, et puis ça nous fait une petite rando entre la radio et La Passerelle où je suis devant Maxime Aubert. On va parler, on va évoquer dans ce monde de Thomas Lebrun, de la compagnie chorégraphique de tous. C'est un spectacle qui ne peut pas avoir lieu dans les murs du théâtre La Passerelle, mais qui va être projeté, figurez-vous, parmi le jeune public et en association avec pas mal d'écoles, du Stade, des Essanières, Porte-Colombe, Romette, École de la Gare, École de Puymort, deux équipes de deux danseurs, et j'ai justement devant moi un danseur, Maxime. On va quand même voyager, c'est bien.
C'est une invitation au voyage avec les enfants. Et en fait, on a dû repenser le format pour les écoles. Et en fait, dans ce format, au sein des écoles, on fait participer les enfants, c'est-à-dire qu'on leur propose des pays dans lesquels voyager, dans lesquels on danse par duo. Et c'est à eux de choisir soit le pays, soit le danseur qui va partir dans ce pays. Tout ça, voilà, pour les faire voyager avec la musique et la danse.
Comment ça peut se situer au niveau des enfants, puisque eux ont vraiment aussi un imaginaire débordant, parfois on les envie en tant qu'adultes.
Thomas Lebrun, donc, le chorégraphe de la pièce, a pas eu cette volonté de partir sur des danses folkloriques. Mmh. Il a vraiment eu cette envie de créer des écritures pour chaque pays, pour chaque tableau, un peu comme une espèce d'énumération de cartes postales. En fait, il avait cette volonté-là. Donc il est parti principalement des musiques, de quelques envies qu'il avait musicalement. Et à partir des musiques, il a trouvé une danse en cohérence avec ces musiques, sans forcément se soucier d'un quelconque folklore ou de danse traditionnelle. Donc on n'est pas là-dedans. Il y a un autre imaginaire qui est en jeu. Et c'est là où, du coup, enfin, pour nous, en tant qu'interprètes, on n'est pas du tout dans une recherche de folklore et du coup de clichés, même si on a déjà eu ces interrogations. Mais en tout cas, pour nous, cette question-là, elle est assez claire. Et après, les enfants se laissent aussi très rapidement, en fait, emporter par la musique, par l'atmosphère que les danses peuvent dégager.
Au niveau de la musique, d'ailleurs, la playlist, quelle est-elle ?
On a des chœurs de femmes bulgares, on a des musiques brésiliennes, une musique malienne. C'est vraiment une musique qui correspond à un pays. J'ai pas la playlist en tête, mais voilà, il y avait vraiment cette idée de, pour chaque pays, une musique.
Il y a du Satie aussi, je crois.
Oui, pour représenter la France. La France est un petit peu le
point de départ, peut-être.
Ouais. Ouais.
Voilà, le point de départ, les avions décollent et puis ensuite on se laisse porter. Mais il y a toutefois des règles plutôt ludiques, hein, forcément. Ouais. On s'adresse aussi à un public jeune, 6 écoles primaires, hein, je le disais en introduction, l'école du Stade, des Essanières, Porte-Colombe, Romette, l'école de la Gare et de Puymort. Alors comment ça va se dérouler sans trop peut-être dévoiler les secrets de coulisses, entre guillemets?
En fait, la démarche, elle est assez simple. Nous, on arrive sur place, on prépare notre espace de danse, et puis on invite les élèves, les enfants à être à l'écoute de ce qui se passe. On a tout notre déroulé, évidemment, en leur proposant des pays. Par exemple, on commence par la France d'emblée, sans avoir trop d'échanges. Après la France, on leur demande de choisir, par exemple, pour un solo de filles. Donc moi, j'ai dansé jusqu'à présent avec Léa. Et donc c'est Léa qui danse. Donc soit ils décident de l'envoyer en Algérie, soit de l'envoyer en Russie. Donc c'est un peu ça l'idée à chaque fois. Et puis on a une petite danse de finale pour un peu clôturer ce spectacle et ce voyage. Et après, on a un moment d'échange avec les enfants. Savoir s'ils ont des questions, des remarques, des ressentis. Et on parle aussi du spectacle. On leur dit aussi, on leur dit ce qu'ils n'ont peut-être pas forcément vu à l'école, ce qu'il peut y avoir dans le théâtre, sur scène, au niveau des lumières, des ambiances, des costumes.
Voilà, c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, on pourrait dire que la scène, c'est l'école. Donc du coup, il n'y a pas de décor approprié tel que peut le proposer un théâtre, un lieu de culture. Et du coup, là aussi, ça peut faire travailler l'imaginaire. Et donc, il y aura des échanges à l'issue de ça. C'est un peu comme un débriefing avec vous-même, les petits jeunes et puis les enseignants aussi.
Ouais, on a parfois des enseignants qui nous partagent leurs questionnements. On a eu des questions très pragmatiques par rapport à la situation actuelle. On a eu aussi des choses vraiment qui concernaient le spectacle, qui concernaient également notre situation en tant que danseur et interprète. Donc les enseignants sont aussi invités à poser des questions et voilà, idéalement c'est ce qui se passe.
Il y a aussi une petite règle au niveau de l'applaudimètre silencieux, c'est ça ?
Ouais, on prend un peu le principe de l'applaudissement des sourds et malentendants, donc juste en remuant un peu les mains. Voilà, ça c'était une volonté de Thomas, je pense pour pas trop non plus exciter les enfants et les élèves qui peuvent aussi utiliser ces moments pour un peu se disperser. Donc l'idée c'est qu'on a quand même une trame, un fil conducteur au long de la pièce, même à l'école, et que du coup on garde cette continuité là jusqu'au moment de l'échange en fait.
Et c'est ceux qui applaudissent donc comme ça, en silence, qui finalement, selon l'applaudimètre, ça gagne. Ça perd, mais bon, il n'y a pas forcément de perdant, parce que là, c'est un échange de voyage. Et puis d'ailleurs, en tant qu'artiste, vous faites preuve aussi d'imaginaire. Vous vous êtes dit, bon, comment on va faire ? On ne peut pas aller dans les théâtres, on ne peut pas partager avec le public. Et finalement, vous avez trouvé cette solution. Et c'est peut-être un bien pour un mal, finalement, dans le processus de créativité.
Alors ça, ce format-là, en tout cas, c'est un peu le Centre chorégraphique national de Tours qui l'a vraiment mis en œuvre. En fait, il y a eu cette idée-là au mois de novembre, à partir du confinement de novembre, où il y a eu des théâtres, en l'occurrence le théâtre d'Angoulême, qui a eu envie de créer quelque chose malgré tout. Et en fait, Thomas et toute l'équipe du Centre chorégraphique ont essayé de travailler sur un format tel que celui-là, pour faire en sorte que les choses continuent à exister. Et c'était vraiment important, non seulement pour les théâtres, mais aussi pour les enseignants et les enfants, en fait. Et les enseignants étaient vraiment reconnaissants, en tout cas, de ce qui s'est passé, de cet échange avec les élèves et puis avec nous. Et donc, oui, ça a demandé une certaine adaptabilité. Et après, nous, on a donné notre accord pour continuer quand même à travailler et à échanger et à partager aussi.
Est-ce qu'il y a des répètes ?
Alors, en fait, la pièce, ça fait maintenant depuis novembre 2018 qu'on la tourne. On l'a beaucoup tournée déjà. Donc, étant donné que c'est vraiment des tableaux assez clairs, on a un espace de jeu qui est très clair aussi. On a un tapis blanc de 6 mètres sur 6, ce qui fait qu'il y a une certaine adaptabilité de la pièce aussi selon les scènes. On n'est pas trop impacté par la dimension scénique, en fait, du plateau. Et en fait, les tableaux, ils sont très clairs dans notre tête, qu'on soit en duo ou qu'on soit en solo. Les choses, elles sont relativement claires et après, on a juste à l'adapter selon l'espace. Voilà, c'est vrai qu'on a eu, par exemple, dans une tournée en Touraine, avant les vacances de Noël, on a fait ce format-là et je me souviens que la dernière représentation était dans un espace très, très petit. Donc, en même temps, c'est une sorte aussi d'animation, enfin, quelque chose qui nous met en alerte en fait en tant qu'interprète, qui fait qu'on doit rester très attentif à ce qui se passe, à comment gérer l'espace, parce que c'est un peu, ça va assez vite en fait. On arrive, on a à peu près un quart d'heure à une demi-heure pour se préparer, et puis on enchaîne. Pour ça, c'est un travail aussi intéressant de s'adapter à l'environnement en fait, à ce qui arrive, à ce qui advient, et comment nous on arrive quand même à avoir un résultat correct, quoi.
Pour ce qui est des enfants, ça les invite aussi dans ce climat anxiogène que nous vivons depuis des mois. Il y a des traumatismes qu'on va peut-être mesurer d'ici quelques années. L'impact traumatique au niveau des enfants. Justement, le fait que les artistes aillent vers les enfants, pour vous, ça peut être libérateur pour eux. Ça peut rendre le climat moins lourd et leur proposer vraiment des rencontres humaines aussi, pas que des danses et puis des voyages, mais aussi tout simplement ce qui tisse les liens entre humains, l'humain, l'art, les enfants.
Ouais, il y a un peu cette idée-là. Après, c'est vrai qu'il y a aussi cette intimidation parfois des enfants et des élèves parce qu'il y a une proximité très forte entre nous et le public. Donc il y a des fois où on les sent un petit peu intimidés, mais on sent qu'ils prennent relativement beaucoup de joie à nous voir. Et aussi, on a des retours des enseignants qui nous disent, mais en fait, ils ont été incroyablement attentifs, qui sont surpris en fait de l'attitude des enfants. Mais je pense qu'aussi, c'est parce qu'on est dans une période où tout est virtuel, tout est aseptisé. Du coup, ce genre d'échange, je pense qu'en effet, en tout cas, j'espère qu'ils y repenseront avec un très bon souvenir. Et en tout cas, il y avait cette volonté-là, en tout cas, au départ de ce format-là et de ce projet.
Et c'est ces enfants qui vont potentiellement être aussi de futurs spectateurs des théâtres. Alors peut-être que là aussi, il y aura un impact positif. Et d'ici quelques années, quand ils seront ados et puis adultes, peut-être ça va les inciter aussi se souvenir à venir vraiment quand les théâtres réouvriront enfin pleinement leurs portes. C'est une ouverture là aussi culturelle chez eux, vous pensez ?
Bah, je pense oui. Après, je sais pas si nous on aura eu, si on aura eu un impact énorme sur les enfants. Je pense que faudrait un travail vraiment à long terme. Mais en tout cas, même auprès des enseignants, il y a eu quelque chose de l'ordre du déclic en fait. C'est-à-dire qu'on a pu parler à des enseignants qui nous disaient, ben, en effet, j'avais pas forcément ce réflexe avant, mais cette période et le fait que les choses soient fermées, qu'on soit privé d'échanges en allant à des concerts, des événements, des rencontres artistiques, en fait, les gens prennent conscience quand même de ça. J'ai cette impression-là, hein, personnellement. Du coup, c'est vrai que ça les incite, je pense aussi, à peut-être à l'avenir, j'espère, aller davantage dans les salles de spectacle, pousser les portes des théâtres et puis de se laisser emporter. Par des choses, par des expériences. Et pour les enfants, je pense qu'il faudrait quelque chose un peu à long terme, mais les enseignants nous ont dit qu'en effet, ils avaient vraiment cette volonté de continuer ce genre d'échange et que ça leur fait beaucoup de bien, même dans la pédagogie, en fait. C'est-à-dire qu'une pièce comme celle-ci, par exemple, elle a pas mal d'enjeux pédagogiques, la géographie, la notion de culture, de mixité, d'échange. Donc je pense qu'ils ont, enfin, en tout cas, les échanges qu'on a eus auprès des enseignants, il y avait cette volonté-là quand même d'avoir un échange entre le milieu artistique le milieu pédagogique, l'éducation à proprement parler, quoi.
Voilà. Finalement, tout se joint. Hein. On part en Algérie, en Russie, au Brésil, en Bulgarie aussi. Selon vous, comment les enfants peuvent imaginer tout ça? Ça peut être que des mots qu'ils peuvent connaître comme ça, mais ils ne savent pas trop situer. Il y a aussi le Mali ou la Syrie aussi. Hein. Donc du coup, là aussi, c'est peut-être une ouverture, finalement, quand les enfants seront adultes, à l'invitation au voyage, à vraiment découvrir peut-être ces pays d'ici quelques années.
Bah, nous, c'est ce qu'on peut que leur souhaiter. Après, nous, on le dit souvent dans les rencontres qu'on a avec les enfants, c'est qu'on a aussi des enfants qui nous posent la question, est-ce que vous êtes allés dans tous ces pays ? Donc, pour ma part, c'est pas du tout le cas. On a vraiment des histoires différentes selon les interprètes. On prétend pas, en tout cas, être imprégné d'une culture, qu'elle soit brésilienne, qu'elle soit bulgare, qu'elle soit malienne, en fait, à partir du moment où on a une vision assez périphérique et assez globale d'un pays ou d'une culture. En fait, on prétend jamais parler au nom d'eux. Enfin, voilà, y a pas cette volonté-là. Mais en tout cas, par exemple, la Bulgarie, moi, c'est pas un pays que je connais énormément, mais en tout cas, Thomas est parti déjà d'une musique bulgare, et à partir de cette musique bulgare, on a essayé aussi d'aller chercher des images, c'est-à-dire que moi, je me suis inspiré de paysages, par exemple, de choses comme ça. Il y a un costume qu'on a fait venir de Bulgarie, donc on est vraiment, en fait, un peu dans un entre-deux, en fait, de ce qu'on peut imaginer et de ce qu'on met assez simplement sur scène, parce que Thomas, en l'occurrence, lui, il est allé au Vietnam, il est allé au Brésil, il est allé en Afrique aussi, donc je ne sais plus s'il avait fait le Mali, mais en tout cas, il est allé dans certains pays africains, donc il avait cette envie d'un regard assez léger, finalement, et assez positif, plus que vraiment descriptif de certains pays. Et en fait, on s'aperçoit, évidemment, que les enfants ont des préférences, mais je pense que c'est plus d'ordre culturel, c'est-à-dire que le Brésil, par exemple, pour un solo de garçon, si on leur demande, vous choisissez entre le Brésil et la Bulgarie, ils vont beaucoup plus choisir le Brésil parce qu'il y a une image qui est beaucoup plus active, qui est beaucoup plus fraîche. La Bulgarie, c'est encore un pays dont on n'entend pas beaucoup parler. Donc je pense qu'il y a une question, il y a aussi une question d'environnement social, culturel. Et en même temps, c'est une manière aussi de montrer certains pays, en fait, de rendre une certaine visibilité. Les enfants s'amusent de toute façon à se dire bon, bah, on va aller là. Et puis c'est pas souvent non plus évident de leur dire mais qu'est-ce que vous avez comme image de ce pays-là ? Parce que tous les enfants ne sont pas forcément allés au Brésil. C'est plus un imaginaire commun, des paysages aussi beaucoup. On parle beaucoup de paysages dans la pièce. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait qu'en fait les enfants choisissent de manière assez spontanée, par des préférences.
Alors comment ça va se déployer ? Vous êtes deux équipes de danseurs, c'est ça ? Et oui. Vous allez vous dispatcher aux dates de... Eh bien là, la prise de son est aujourd'hui, mercredi. Mais ça va se dérouler incessamment sous peu, là, bientôt.
Donc c'est là, on va travailler demain et après-demain. Mm-hmm. On sera deux équipes avec deux danseurs sur deux territoires différents. Mm-hmm. Avec un peu la même formule, mais évidemment toute la spontanéité de l'instant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on propose des choses aux enfants, on ne va pas avoir la même proposition d'un moment à un autre. Mm-hmm. Mais c'est ça aussi qui est intéressant.
Mm-hmm. Ce jeudi et vendredi, vous comptez immortaliser cela via un format vidéo peut-être, pour voir un peu l'évolution et plus tard, et peut-être engendrer encore quelques vocations, et puis pourquoi pas faire perdurer ce projet.
Thomas, le chorégraphe, nous a pas fait part de cette volonté-là. Je pense qu'il y a vraiment cette volonté que de toute façon, la pièce, elle va continuer à tourner, que ce soit sur ce format-là ou de retour dans les théâtres, parce qu'elle est, quand même beaucoup demandée. Mais après, il n'y a pas cette volonté de mettre ça sous un format vidéo. Et personnellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de remettre cet outil à sa place aussi. Là, c'est un peu...
Ça pourrait desservir, selon vous, finalement, parce que vous parliez tout à l'heure des écrans et des vidéos et compagnie. Alors que là, finalement, ça invite vraiment à l'imaginaire. Et puis, on garde un peu le secret de ce qui peut se passer dans ces écoles. Et puis, ça peut varier d'une école à l'autre et ainsi de suite. Et là, on peut avoir une trame, une histoire associée à différentes écoles finalement.
Bah, ça pourrait être le cas, mais dans ce cas, je pense que ça impliquerait un autre projet, vraiment différent, avec d'autres choses mises en place. Là, ça a été vraiment l'adaptation d'une pièce dans les écoles et un peu de manière très très rapide et pas sous la contrainte, mais en tout cas, il y avait quelque chose de l'ordre de la rapidité. Et, c'était pas un projet en soi que d'aller faire la création dans ce monde, dans les écoles. Sinon, Thomas aurait fait vraiment un projet comme ça, très spécifique. Mais moi, à titre personnel, j'aime bien aussi l'idée que le spectacle, ça reste quelque chose de vivant, de spontané. La danse, c'est quelque chose de très éphémère, en fait. On s'aperçoit que même si on a des écrits, même s'il existe de la notation de la danse, en fait, les choses, elles restent quand même très... elles peuvent être très floues et elles sont... la danse, c'est vraiment un espèce de souvenir comme ça, très... assez vague. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça en tant que spectateur. C'est-à-dire que quand je vais voir une pièce, j'apprécie ce qui se passe dans l'instant, mm-hmm. en fait. Et cette question toujours de passer via l'écran, on a souvent ça en spectacle. Et c'est moi un questionnement qui m'est assez cher, mais de... On a pas mal aussi d'enseignants qui se mettent à filmer et on essaie de leur expliquer. En fait, les élèves, certes, ils parlent, ils échangent au moment du spectacle, mais en attendant, ils sont là. Ils ont des réactions et tant mieux, en fait. Mm-hmm. Mais c'est-à-dire que moi, personnellement, je préfère avoir un spectateur qui a des réactions du moment qu'il ne gêne pas les autres. Ça ne m'impacte pas. Plutôt que d'avoir des écrans devant moi. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été accentué avec ces circonstances sanitaires, mais j'ai vraiment à cœur de défendre ça, de défendre le lien direct aux choses, d'observer, de lever la tête un peu de ces écrans, de les mettre un peu de côté et de dire, bon, là, je vais attendre 50 minutes, je vais attendre un quart d'heure, je vais attendre une heure et demie. Et je vais juste profiter de ce qui se passe, en fait. Mmh. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à défendre cette chose-là. Après, évidemment, les objets numériques sont vraiment une source aussi, sont une grande ressource, et notamment dans la danse. Hein, mais, euh, Et en tout cas, moi, j'ai à cœur quand même que le spectacle vivant reste quelque chose de vivant et qui évolue, qui ne soit pas figé dans une vidéo, quoi. Parce que même en tant qu'interprète, moi, je n'arrive pas à regarder une vidéo d'une heure ou même d'une demi-heure de danse. C'est très difficile pour moi parce que je trouve que ça n'a pas de dimension. C'est-à-dire que même si c'est très, très bien filmé, bon, pour moi, ça reste de l'écran.
Ça reste de l'écran, il faut s'en dissocier et vraiment vivre le moment présent. Et puis le meilleur écran que l'on puisse avoir, c'est peut-être les souvenirs qui en découlent.
Moi, en tout cas, je le vois comme ça. J'ai l'impression qu'aussi tous nos outils aujourd'hui de mémoire, de stockage, en fait, elles nous empêchent aussi d'avoir un exercice de mémoire et de souvenirs. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, quand on vit n'importe quelle expérience, d'essayer de le raconter, de trouver des mots, en fait, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a senti. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple de sortir son téléphone, de dire « j'ai vu ça, regarde, j'ai filmé ça ». Et je peux pas le blâmer, c'est-à-dire que c'est aussi bien en termes de précision. Mais je trouve ça vraiment important de cultiver un espèce de témoignage spontané, de savoir trouver des mots, en tout cas d'essayer. Et ouais, toujours d'être dans cette chose de cultiver un vocabulaire et puis du souvenir, en fait, tout simplement, hein, quelque chose de très, très mécanique, en fait, d'essayer de stimuler toutes ces choses-là.
À titre personnel, vous, en tant que danseur, est-ce que vous retrouvez votre âme d'enfant aussi, finalement, et que vous laissez porter un peu par l'imaginaire ? Vous êtes probablement aussi surpris de ce que peuvent proposer les enfants. C'est tellement, finalement, ça coule de source, on pourrait se dire.
Ouais, quand même, y a cette... on est un peu... dans cette pièce, on doit le faire, en fait. C'est un travail qu'on est un peu contraint, mais c'est pas vraiment une contrainte, mais qu'on se doit de faire en tant qu'interprète, à renouveler un imaginaire aussi, et un imaginaire assez... assez simple, mais à la fois avec des choses précises. Dans le processus de création, Thomas Lebrun nous disait souvent que c'était important de renouveler selon chaque pays, selon chaque tableau, un nouvel imaginaire. Donc d'entrer dans le tableau du Mali, pas du tout de la même manière que celle dont on entre en Bulgarie, par exemple, où dans la Bulgarie, il y a beaucoup quelque chose de l'ordre de la circulation, de très planant. Moi, dans ma tête, j'ai vraiment la vision de paysage, d'images que j'ai pu voir. Par exemple, dans le Mali, c'est quelque chose d'un peu plus terrien. Il faut sentir un peu le climat chaud. Donc ça implique d'avoir une espèce de gymnastique cérébrale où on se dit, bon, en fait, là, il me faut des images simples. Et c'est vrai que ces choses-là, en fait, elles requièrent un petit peu de l'enfance, en fait, de se dire, bon, bah... là, je fais une danse, j'y prends plaisir, là, je suis dans tel univers avec telle personne. Et puis voilà, après, l'imaginaire va faire son chemin aussi auprès du public. Et oui, on retrouve quand même une âme d'enfant. Après, on est quand même dans notre... on a quand même tout en tête, c'est-à-dire que c'est moins à nous de faire le chemin de l'imaginaire que le spectateur, mais en même temps, on doit le nourrir quand même.
Voilà, et bien merci de vous être arrêté au micro de Fréquence Mistral. Donc, ce sera ce jeudi et vendredi. Vous allez voyager. Vous êtes chanceux par l'imaginaire.
Merci beaucoup.
Merci à vous et puis à très bientôt, hein, aussi dans les théâtres. On vous reverra prochainement car Thomas Lebrun, hein, il est venu déjà moult fois à la passerelle et on apprécie beaucoup ses œuvres et puis son imaginaire aussi. Merci beaucoup à vous et puis bonne danse et bon voyage.
Merci beaucoup.